Ça veut dire qu'il peut y avoir du jugement définitif que le jugement dernier. Et qu'est-ce qu'on attend pour faire le jugement dernier? Que la vérité puisse dire, l'homme a réussi. Oui? Alors, entre-temps, dit le Midrash, Dieu a dit, pendant que vous contestez, déjà l'homme a été fait. Na'asa. C'est-à-dire, il les a pris de vitesse. Comment il les a pris de vitesse? En créant l'homme dans le temps, dans la durée. De telle sorte que l'homme ait le temps de résoudre ce problème. Parce que dans l'éternité, on ne peut pas. Il y a deux voies pour, il y a deux voies contre. Mais on va distribuer la difficulté à l'intérieur du temps. Vous y êtes? Bon. Alors, que signifie le thème général de ce Midrash? C'est que il y a, un avis différent du côté du Créateur qui parie pour l'homme. Et vous voyez à quel point nous existons à l'intérieur d'un abri de grâce. Il y a un pari qui est fait. Et puis, les absolus sont contre. Alors, vous voyez quel est le dialogue entre Dieu et les anges. Et Dieu dit, on va le faire quand même. Alors, Dieu est plus fort que les anges. C'est joli, ça. Bon. Alors, je vais vous compléter d'ailleurs le problème. Vous voyez à quel point le Midrash est d'une mentalité exactement opposée à la philosophie. Pour la philosophie, c'est l'inverse. C'est l'homme qui juge que les absolus sont contradictoires entre eux. Oui. Tandis que pour le Midrash, c'est tout à fait l'inverse. C'est les absolus qui jugent que l'homme est une créature impossible. Oui. Et qui a raison? Évidemment, c'est les anges qui ont raison. C'est le Midrash, quand même. C'est pas la philosophie. Vous y êtes? La philosophie est condamnée à une tragédie. Parce qu'on reconnaît que la vérité, c'est la vérité, la charité, c'est la charité, la paix, c'est la paix, la justice, c'est la justice. Donc, voilà, ils ne sont pas d'accord entre eux. Alors, drame, tragédie. L'univers des valeurs de l'homme est un chaos. Non, mais c'est pas ça du tout. Tous ces absolus sont la sainteté absolue. C'est l'homme qui est une créature impossible, tant qu'il n'aura pas réussi à devenir un homme vrai. Vous voyez, ça correspond beaucoup plus au sentiment que nous avons de nous-mêmes. Est-ce que c'est bien clair? Et en tout cas, ça rend compte du fait pourquoi l'homme existe dans la durée. La durée, c'est le temps qui nous est donné pour pouvoir mériter d'être. Parce que sur l'écran de l'éternité, on n'a pas le temps. Dès qu'on entend la paix dire « oui, tu peux faire la paix », il y a la vérité qui dit « non, tu es un menteur ». Bon. Vous voyez le problème? Alors il arrivera un temps où cette vérité aura germé de la terre, ça veut dire où l'humanité aura fini par engendrer une manière d'être qui puisse supporter le jugement. Alors il y aura le jugement. Vous y êtes? Alors je voudrais vous ajouter deux choses là-dessus. La première, c'est que ça nous explique pourquoi ce fameux jugement tarde tellement. Tout se passe comme si, dès qu'on dit, bon, et le jugement dernier, on dit l'année prochaine. Pourquoi? Qui pourrait expliquer pourquoi? Ça nous fait comprendre ça. Pourquoi le jugement tarde? L'histoire humaine, c'est effroyablement long. Et pourquoi finalement, ça tarde encore? Pourquoi? Alors, essayez de réagir. La réponse, pourquoi ça? C'est pas possible, puisque nous existons, c'est que le pari que Dieu a fait a quand même un fondement. C'est cet autre Midrash qui dit que Dieu a vu, à ce moment-là, qu'il y aurait un Israël qui accepterait la Torah, ça veut dire le monde dans lequel nous sommes réussira. Mais pourquoi ça tarde tellement?
Pourquoi l'homme s'élève au niveau des absolus?
Oui, c'est ça, mais pourquoi ça tarde? Comment? Non, je voudrais que vous répondiez de façon beaucoup plus directe, avec votre âme, pas seulement avec votre intelligence. Pourquoi ça tarde? Mais pour faire passer... Non, c'est pour que le plus grand nombre soit sauvé. Ça veut dire qui on attend? On attend les retardataires. Vous avez compris? Bon, c'est bien clair, oui. Et puis, deuxième chose corollaire, ça veut dire que ce jugement, c'est entre les mains d'Israël de le provoquer. À n'importe quand, Israël peut dire, bon, ça suffit, allez, maintenant on fait le jugement. Vous voyez que la patience, c'est la patience d'Israël. Parce qu'il est bien évident que si tout cela est cohérent, ce qui est le cas d'ailleurs, eh bien, il suffit qu'Israël dise, bon, ben ça y est, il y a un stock suffisant d'âmes humaines qui peuvent être sauvées, allez, on fait le bilan. Oui. Alors vous voyez tout ce que les goyim doivent à la patience d'Israël. Parce qu'il suffit, effectivement de faire le bilan, et si on disqualifie ceux qui sont disqualifiés, et on prend avec nous ceux qui peuvent passer avec nous. Oui. Or c'est pas ce qui se passe, ça tarde, et chaque fois, les juifs disent l'année prochaine. Mais c'est ça qui se passe là.
Comment comprendre
c'est ça.
Si vraiment il faut attendre les retards de terre. Donc, Dieu ne la prêtera jamais dans la Bible.
Si.
S'ils ne sont pas.
Si. Parce que c'est tout le temps qu'il y a entre Machère Ben Yosef et Machère Ben David. Si on mérite, le temps de Machère Ben Yosef commence très tôt. Si on ne mérite pas, c'est en son temps qu'il arrivera. C'est-à-dire une génération avant le Machère Ben David. C'est plus précis que ça. C'est pas la majorité, c'est la totalité. Il s'agit de savoir si Israël a la capacité de faire venir le Mashiach. Mais le Mashiach que Israël doit faire venir, c'est pour les goyim. Alors Israël a la prérogative, c'est une des stratégies possibles, de faire le bilan du jugement dernier. Alors, la raison... Oui, à n'importe quelle génération, Israël peut dire, eh bien, je décide, c'est le temps, c'est fini, on lit, il faut que le Mashiach vienne. Et il vient. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? Le jugement pour les autres. Vous comprenez? Alors, ça ne se passe pas, bien entendu, à l'échelle de la décision de tel ou tel individu. Ça se passe à l'échelle de l'identité d'Israël dans son ensemble. Oui. Alors voilà qu'Israël a une patience d'ange. Parce que quand même, 2000 ans, c'est long. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez vraiment, je vais vous dire quelque chose qu'a dit. Vous ne vous rendez pas compte de cette espèce d'amour inconditionnel. Laissez-moi vous expliquer. Que les Juifs ont pour les goyim. C'est une chose qui m'a toujours étonné jusqu'au moment où je me suis rendu compte de quoi il pouvait s'agir. Il y a un amour des Juifs pour les goyim qui est une chose vraiment inconditionnelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, alors, qu'est-ce qui motive cela? Enfin, quelle est la ferveur qu'il y a là-dedans? C'est tout simplement qu'on est chargé de mission sans s'en rendre compte. On est chargé de cette mission qui consiste à sauver les goyim. Oui. Sinon, ce serait aberrant de voir qu'un peuple qui a tellement souffert de tous les autres peuples est capable d'un amour tellement délirant pour les autres peuples. Oui. Vous savez très bien que nous vivons cela. C'est bien clair. Bon. Eh bien... Ben justement, on l'a attendu jusqu'au bout. On l'a attendu jusqu'à l'année 5728. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut comme patience? Mais ça va ensemble. Et c'est pas qu'on pouvait pas mériter. On pouvait mériter de la manière suivante. Simplement dire à n'importe quel moment, bon, alors les Juifs de la Torah, c'est les Juifs. Les autres, on ne veut pas savoir. Ils aillent chez les goyim. Et c'est fini. Alors les Juifs de la Torah, on se rencontre. Et puis voilà, on demande le jugement. Enfin, je vous dis ça à la manière du Midrash. Mais c'est comme ça que c'est. Or ça, les Juifs ont toujours refusé. Les Juifs ont dit d'abord, tout Israël, c'est Israël. Et puis non seulement ça, Israël, c'est Israël pour sauver les goyim. Sans arrêt. Oui. Alors, c'est de là que ça vient. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est une patience incommensurable dont les goyim n'ont aucune idée. Parce que c'est nous qui vivons ça. Ils ne se rendent pas compte qu'est-ce que c'est difficile d'être le juif des nations. C'est Gehinam Tartona.
J'ai l'impression que c'est ça l'assimilation en patience.
Comment? J'ai pas entendu ce que tu as dit.
Je comprends pas le mot patient. Finalement, ils sont obligés d'être patients, puisque de toute façon, ils ne sont pas encore réalisés.
Mais pas du tout. Il y a eu un temps où il y a eu un mouvement d'impatience de la part d'un certain Herzl, et c'était la fin. Oui. Il y a eu une impatience. On a dit, allez-y, on rentre chez nous. C'est ça qu'il a fait. Oui. Et s'il n'avait pas eu ce mouvement d'impatience, eh bien, il n'y aurait pas maintenant ce qu'il y a. Et d'ailleurs, tout le monde a dit, quoi? Impiété?
Tu avais dit aussi, une fois précédente, que finalement, maintenant, les Juifs vont reconnaître que c'est Israël, etc. Alors, finalement, est-ce que c'est pas un constat d'échec? Puisque
Qu'est-ce qui est un constat d'échec?
Est-ce que j'ai pas de constater que... que c'est pas parce que... Bon, est-ce que c'est parce que les Juifs ont été des rigolines que les rigolines vont maintenant reconnaître le judaïsme? Et ça ne veut pas être ça, parce que j'ai dit qu'il y a eu une mouvement de conservation.
Oui, et il faut quand même préciser chaque phrase avec où elle va. Mais je veux dire que le fait que nous ayons eu cette espèce de stratégie qui finalement est devenue le christianisme, ça c'est un échec. Ça c'était la discussion de tout à l'heure. C'est-à-dire si nous avions eu la force, le courage ou la possibilité de le faire directement, ça aurait mieux marché quand même. Bon, oui. Maintenant ceci dit, le fait de sauver les civilisations goïques chez elles, c'est pratiquement un échec. Alors il nous reste l'autre manière, c'est-à-dire de le faire chez nous. Enfin, vos questions m'obligent à répondre de façon limite, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire, est-ce que vraiment, vous pensez qu'il y a une possibilité, puisque par exemple nous sommes en France, de faire que les populations françaises se conduisent d'après la Torah? Il n'y a plus de possibilité, oui. Et on a essayé toutes les stratégies, c'est pas possible. Bon, alors c'est fini, c'est fini. Maintenant, ce que je pense, c'est que si Israël peut être l'Israël étant messianique, avec un consentement minimum des nations, d'ailleurs, maintenant qu'elle le veuille ou pas, ça a commencé. Et bien à ce moment-là, en tant qu'Israël, cela pourrait être la source de bénédiction pour le monde entier.
Mais de la même manière, on va penser la porte que la Galoute ça pourrait être.
Bon, alors disons que le temps de la Galoute est accompli. Mais ce dont nous parlions immédiatement, c'est ce que cela peut représenter comme patience. Alors branchez-vous sur l'analyse immédiatement précédente. La vérité du jugement dernier ne sera entendue par le Créateur que lorsque cette vérité pourra dire l'homme mérite d'exister. C'est la patience de qui ça? Bien entendu du Créateur d'un côté, mais d'Israël de l'autre. C'est-à-dire, en d'autres termes très précis, la patience de Dieu, c'est la patience d'Israël, se mesure à la patience d'Israël. Israël a la prérogative de dire c'est trop dur. On fait le bilan. Oui. Et voilà que, au contraire, il y a eu cette vertu de la patience jusqu'au bout. Vous ne vous rendez pas compte que c'est presque une habitude que les Juifs ont pris de partir un jour après que c'est trop tard. Oui. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez de plus comme patience? C'est-à-dire, vraiment, le seul critère qu'ils ont demandé aux nations pour supporter de vivre chez elles, c'est est-ce que c'est possible de vivre tout court? Oui, et jusqu'au lendemain, on se dit peut-être c'est encore possible. Imaginez la patience des Juifs allemands en Allemagne. C'est quelque chose d'exorbitant. Bon, alors, il faut craindre qu'il nous arrive une péripétie analogue. Vous comprenez que si vous entendez les Juifs russes, originaires de Russie, parler de leur pays, la Russie, hein, alors ils vous diraient aussi, c'est pas possible qu'en Russie puisse arriver ça, que le peuple juif soit exactement comme en Égypte, c'est-à-dire bouclé. Oui. Alors, c'est pas plus invraisemblable que de dire ça arrive en France. On a déjà des signes, hein, pas interdiction d'exporter des matières explosives dans le Moyen-Orient, ni mirage, ni juif. Ça risque d'arriver. Et c'est pas plus invraisemblable que ça arrive ici ou en Russie. Encore une fois, si vous connaissez des juifs russes, demandez-leur de leur parler de la Sainte Russie. Nous parlerons de la Sainte Russie. Et pourtant, c'est arrivé. Oui.
C'est de la patience,
c'est de la patience. Alors, nous avons maintenant en place les deux lignées, donc ces deux ensembles d'humanité, l'humanité qui descend de Caïn et l'humanité qui descend de Shet, chacune du moins avec ses problèmes. Et nous avons déjà vu quelles sont les lignes de force qui nous permettent de comprendre qu'il y a des risques d'échec. C'est bien clair. Ouais, les risques d'échec propres à la lignée de Caïn, nous les avons déjà appris. Cette lignée est arrivée à une saturation d'impossibilité. C'est-à-dire, tout se passe comme si la lignée humaine, à travers Caïn, est arrivée à devenir être comme une espèce animale. Une société fonctionnelle, c'est une société d'insectes. C'est bien clair. C'est une ligne de risque d'échec de la société humaine qu'on a pu expérimenter à travers les siècles, d'ailleurs. Et il y a dans la société contemporaine un certain nombre d'aspects qui ressemblent à cela. En tout cas, c'est les problèmes qu'il y a à résoudre, et on voit mal d'où seraient les solutions, à moins que les différentes catégories de base de la mentalité culturelle changent, c'est-à-dire la distinction de nature entre la politique et la morale, la distinction de nature entre, si vous voulez, le problème social et le problème de la destinée humaine, enfin, tout ce qui finalement apparaît comme dans le bilan de la littérature contemporaine, sans aller, si vous voulez, jusqu'aux analyses de philosophie proprement dites, mais tous les romans qui paraissent, tout ce qu'on lit depuis quelques générations, montre bien que c'est une humanité qui ne sait pas quel est le sens de sa destinée, enfin, qui n'arrive pas à résoudre, qui ne peut que se plaindre de l'état dans lequel elle se trouve. Enfin, si vous voulez, tout se passe comme si on entend dans la littérature contemporaine le procès des femmes de la mer. C'est bien clair, n'est-ce pas ? Ça veut dire qu'on continue quand même, mais la machine tourne à vide. Alors en tout cas, les risques d'échec dans la lignée de Chet, cette fois, nous sont montrés dans cette torsion de la vocation du prêtre, qui devrait être la vocation essentielle de Chet. Ce sont des pseudo-religions qui sont enseignées à l'humanité, et je pense que ce n'est pas nécessaire de revenir sur cette analyse, on a bien compris comment les deux ensemble sont en présence. Bien. Alors nous allons avoir une description de l'état de la société en ce temps-là, qui va nous expliquer pourquoi Noir n'aura pas la possibilité de sauver l'humanité ambiante, et à la limite, il sera sauvé, lui, comme une nouvelle chance pour recommencer. Il est bien évident que tous les problèmes que nous avons évoqués vont se retrouver après l'humanité de Noir, mais quand même dans des catégories différentes, puisque après le déluge, après l'humanité de Noir, il y aura quand même la possibilité qu'apparaisse, en fin de compte, un Israël. En tout cas, c'est évident du point de vue de la cohérence du récit. Le récit du salut de Noir nous est donné en vue d'être lui-même une préface à la naissance d'Abraham. Souvenez-vous de cela d'autre part. Bien. Alors, nous arrivons au dernier passage de cet ensemble de textes. Au chapitre 6. Nous l'avons vu très rapidement la dernière fois, nous allons reprendre un peu en détail. Alors, premier verset de ce chapitre 6, et il arriva, Vaïhi. Oui, suivez sur le texte. Donc, chapitre 6, premier verset, Vaïhi, il arriva, qui est Echel à Adam la Rov Alpene Adama. Littéralement, lorsque l'homme eut commencé à se multiplier à la surface de la terre. Par conséquent, le récit de ce chapitre 6 veut nous reprendre l'analyse des causes de l'échec un peu plus haut. C'est-à-dire, ce qu'on va nous raconter ici, il arrive là, ça commence déjà lorsque l'homme, à travers la lignée de Caïn, lorsque l'homme eut commencé à se multiplier à la surface de la terre. Ou Bano Dioudoulahem, et des filles leur furent nées. Alors, je reprends le verset. Quelle est la principale difficulté? Rappelez-moi ce que nous avons vu la dernière fois. Il arriva, lorsque l'homme commençait à se multiplier sur la surface de la terre, et des filles leur furent nées. Si l'homme se multiplie, il n'y a pas que des filles, il y a aussi des garçons. Il y a un étonnement qui apparaît, oui. Mais nous allons prendre la difficulté un peu plus haut dans le verset, et il arriva lorsque l'homme eut commencé à se multiplier. Là aussi, dans le phrasé biblique, il y a une difficulté. Parce que pour se multiplier, il faut commencer à se multiplier. Oui. Là encore, ce terme de commencer à est difficile. Mais c'est inutile. Il arriva lorsque l'homme se multiplia. Parce qu'à partir de quel seuil on commence à se multiplier? À partir du seuil de la multiplication. Oui. C'est-à-dire, si on a une règle pour dire c'est multiplié, ben, dès que ça commence, c'est déjà multiplié. Donc, se commencer à est difficile. Est-ce qu'on a étudié cela? Non. Bon, alors il faut lire en hébreu plus exactement. Il y a écrit « Vayhi kiechel ha'adam la'ro ». Il n'y a pas écrit « Vayhi kiechel ha'adam ro » al-pene adam. Ça signifie « Il arriva » lorsque l'homme eut commencé par se multiplier. Alors, ça nous renvoie au verset de la bénédiction de l'homme. Le verset était « Pérou, urbu ». Pérou, ça veut dire « fructifier ». Donner un fruit, « rebu », ça veut dire « multipliez-le ». Il y a donc un ordre. Il faut d'abord donner le fruit et ensuite le multiplier. Alors, la catastrophe, c'est qu'on a commencé par se multiplier au lieu de commencer par fructifier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est clair ? Qu'est-ce que ça signifie ? Voyez, nous reprenons le schéma général de la destinée de l'histoire humaine. Il faut engendrer le Fils de l'homme. Oui. Et chaque étape de cet engendrement, dans le sens de la réussite, s'appelle le fruit. Bon. Alors, lorsque le fruit est là, on le multiplie. Si on commence à se multiplier avant que le fruit ne soit là, ça veut dire qu'on va multiplier une ébauche, une approximation. Ça veut dire qu'on va stopper la ligne des engendrements par la multiplication. Oui, la faute, plus que la faute, hein, comment dire, le raté, hein, c'est de multiplier une ébauche de l'identité humaine avant qu'elle ne réussisse. La ligne qui va dans le sens de la fructification récupère et sauve toutes les étapes, parce que chacun aura été perdeux, perdeux, perdeux. Donc, va dans le sens de celui qui réussit. Bien. Si la multiplication se fait, les ébauches, si la fructification se fait, les ébauches précédentes sont sauvées. Parce qu'un tel est père d'eux. Le fils va dire cadix pour le père. Oui. Vous y êtes. Mais si la ligne de fructification ne se fait pas, alors les ébauches multipliées sont des impasses. Alors vous voyez qu'on ne peut pas lire la Bible en français. On ne comprend rien, on lui fait dire des absurdités. Vous avez d'ailleurs un texte français, là ?
Oui.
Oui, alors, lisez ce qu'il y a d'écrit. Bon, alors, c'est pas exact. Et je reprends le texte littéralement. Vaïe, il arriva quoi ? La catastrophe qui va nous être racontée est arrivée quand ? Lorsque l'homme eut commencé la rose par se multiplier. La rose millifrotte. Est-ce que vous en connaissez ? Bon, alors je vous ouvre une parenthèse. Je ne sais pas si nous en avons parlé déjà, je ne me souviens plus, mais la Gemara étudie le verset où il y a Vaibarechotam, Vayomer Lahem, Perur. Le verset dit, et Dieu les bénit, l'homme, et leur dit, fructifiez et multipliez. Et multipliez-vous. Vous voyez qu'on ne peut pas traduire croissez et multipliez, c'est trop. Je ne sais pas si nous en avons parlé déjà, je ne me souviens plus, mais la Gemara étudie le verset où il y a Vaibarechotam, Vayomer Lahem, Perur. Le verset dit, et Dieu les bénit, l'homme, et leur dit, fructifier et multiplier. Et multipliez-vous. Vous voyez qu'on ne peut pas traduire croissez et multiplier. C'est trop analogue en français. Croissez et multiplier. Enfin, peut-être en vieux français ça peut être dit. Mais en français moderne, c'est déjà devenu un pléonasme. Hein? Parce que dans croître, il y a quand même cette idée que ça surcroît. Hein? Mais enfin, fructifier, ça veut dire donner un péri. Et une fois que le péri sera là, multipliez-le. J'insiste bien. Hein? Alors la Gemara étudie. Est-ce que cette expression « Pérou pour nous », c'est ça la bénédiction. Ou bien est-ce qu'il y a deux choses ? Et Dieu les bénit, c'est une chose, et il leur dit deuxièmement « Pérou pour vous », et donc ça se mitzvah. Vous voyez le problème ? Comment faut-il lire le verset ? Est-ce qu'il y a écrit « Il les bénit » et la bénédiction c'est « Il leur a dit Pérou pour vous » ou bien qu'est-ce que ça veut dire « Il les bénit » premièrement, ça veut dire « Il les a rendus bénis » et maintenant qu'ils sont bénis, il leur a dit mitzvah, perur, bou. Vous comprenez ? Et c'est la deuxième lecture qui est retenue. Il y a des raisons pour cela, mais enfin, ça serait trop long de voir ça en détail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, il les bénit ? En hébreu, ça veut dire, il les rendit féconds. Il a mis la bénédiction en eux. Il les a rendus capables de bénédiction. C'est un transitif, c'est pas un souhait. C'est un acte, une opération. Vous comprenez ? Qu'est-ce que c'est qu'un être béni ou une chose bénie ? Ça veut dire bracha, bracha ça veut dire abondance. Hein? Ça veut dire un être ou une chose bénie, c'est un être ou une chose qui est plus que ce qu'elle est. Elle porte en elle la bénédiction. comprenez? Donc, bénir quelqu'un, dans le sens de la Bible, du vocabulaire de la Bible, c'est pas lui souhaiter la bénédiction, quand c'est Dieu le sujet. Hein? Parce que qui va bénir? Que ça veut dire que Dieu souhaite? Oui. Vous comprenez? C'est le rendre béni, et ensuite intervient une mitzvah. Et d'ailleurs, dans la formule de bénédiction de l'homme, si c'est un souhait, on dit que Dieu te bénit. Et là, le verbe béni, c'est le traditif. Que Dieu te bénit, ça veut dire te rendre béni. Vous comprenez? Alors, nous allons réfléchir sur ce thème de béni. Et on voit d'ailleurs que à la limite, que ce mot de bénédiction a été pensé en hébreu premièrement pour l'engendrement. C'est la raison pour laquelle le genou s'appelle Beresh. Le genou s'appelle Beresh. Ça, c'est la même racine. Parce que le genou est l'endroit où l'on reçoit le signe de la bénédiction. D'ailleurs, en latin, genou, c'est la même racine que engendrer. Hein? C'est sur les genoux que l'on reçoit la bénédiction. Quand la femme enfante, elle reçoit l'enfant sur ses genoux. Alors, le genou s'appelle le genou parce que c'est Birkaïm, c'est l'endroit où on reçoit la bracha. Vous avez compris? Je vais vous rappeler pour les ceux qui ont déjà un peu lu la Torah, mais quand les femmes, les patriarches, attendent un enfant qui ne vient pas, voilà. Ça veut dire que le fait de recevoir un enfant sur ses genoux, c'est l'adoption. Voilà. Il y a d'ailleurs une cérémonie dans les communautés sarrasines, vous avez dit en Afrique du Nord certainement, que la veille de la circoncision, ou pour une fille au moment où c'est la nomination de la fille, alors il y a Mignan qui se réunit à la maison, et puis on pose l'enfant sur ses genoux à tour de rôle. Vous n'avez jamais vu cela? Bon, ça s'appelle Doral. C'est pas en Algérie, je ne sais pas comment au Maroc vous appelez ça. Hein? Le Hadith. Eh bien. Quoi? Pour les filles aussi. Bon, enfin, ça dépend des communautés, mais c'est ça, celui qui s'invite d'adoption de l'enfant par la communauté. Poser un enfant sur ses genoux, dans ce rite-là, ça veut dire je le considère comme mon fils. Parce que les genoux, c'est l'endroit où on reçoit la bénédiction. Bien. Alors, il les a rendus bénis, ça veut dire qu'il leur a donné la possibilité d'engendrer, et il leur a dit or, Pérou, Urbou. Bien. Alors, la Gemara discute, puisqu'il y a deux ordres, Pérou, Urbou, à quelles conditions on a accompli le devoir de l'engendrement? La réponse est il faut au moins un garçon et une fille. Un garçon pour Pérou et une fille pour Pérou. Alors on apprend par là, vous y êtes? C'est bien clair, ça c'est la halakha. Hein? C'est-à-dire on a accompli le devoir de Kiria Veridia, puisque on a au minimum un garçon et une fille. Si on n'a que des filles, on n'a pas accompli le devoir. Si on n'a que des garçons, non plus. C'est comme ça. Enfin, vous apprendrez dans le Coran la halakha de façon plus précise. Tout est prévu en détail, il faut laisser après soi. On est mahmir. En général, les juifs qui ont beaucoup d'enfants, mais enfin, dès qu'on a un garçon et une fille, on a réalisé la mitzvah. Vous y êtes? Bon. Alors, pour. Comment? Enfin, dans les limites où c'est en notre pouvoir.
Mais pourquoi que vous n'avez pas?
Justement, je vais expliquer. Donc, pourquoi un garçon? C'est Pérou et fils. Alors là, c'est facile à comprendre. Ça veut dire l'identité humaine qui est en modification dans les engendrements, suivez. L'identité humaine qui est en modification, c'est l'identité masculine. Mais le principe de la multiplication, c'est le principe féminin. C'est-à-dire c'est la matrice féminine qui modifie ce qui est en train d'être modifié dans le féri et qui le multiplie. Le sujet de l'histoire, c'est l'identité Zahra. Voilà. Mais la matrice de l'histoire, c'est l'identité Nekeva. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à la limite, c'est l'homme qui reçoit la mitzvah d'avoir des enfants et pas la femme. La femme a cette mitzvah au second degré. C'est parce que si elle refuse, elle empêche l'homme de la réaliser. Non, mais ce n'est pas elle qui met tout ça. Je vous dis cela pour des raisons importantes d'ailleurs, indépendamment du sujet lui-même qui mérite d'être connu. C'est parce que la règle talmudique, de la loi juive, concernant les anticonceptionnels, lorsque, selon la règle, on peut les employer, est très précise. Hein, c'est la femme qui doit les employer et jamais le mari. Parce que le mari est méprisé. Le mari a l'ordre d'avoir des enfants, donc il ne peut pas s'empêcher, il ne peut pas se mettre dans le cadre de ne pas, tandis que la femme n'ayant pas l'ordre, c'est elle qui peut empêcher. Vous comprenez? C'est-à-dire, les, je ne sais pas comment on les appelle, les contraceptifs masculins sont radicalement interdits. Et c'est les contraceptifs féminins, qui sont d'ailleurs connus déjà au temps des Talmud, parce qu'il y a des raisons qu'on étudie, chaque cas s'étudie, avec un médecin et un rabbin, lorsqu'il y a des raisons qui jouent, alors on peut employer des contraceptifs, mais uniquement féminins. Pourquoi? À cause de cela. Parce que c'est l'homme qui est méprisé de derrière les médias, c'est pas la femme. Vous comprenez? Bon. Alors, je referme la parenthèse. Il en résulte, pour reprendre le verset, que lorsque l'identité humaine a finalement choisi, c'est pas le mot, enfin vous comprenez ce que je veux dire, il lui est arrivé que elle a réalisé le principe de la multiplication, alors elle a pris une identité féminine. Voilà. Lorsque l'homme a commencé par se multiplier, il a eu ces qui sont le principe de la multiplication. Ça veut dire l'identité humaine est devenue plus féminine que masculine. Ça, c'est aussi un thème de psychosociologie très important. Il y a des manières d'être dans les sociétés qui sont féminines, d'autres qui sont masculines. Enfin, c'est un sujet un peu trop, si vous voulez, comment dire, c'est un sujet de culture générale. Voilà. Mais ça nous mènerait trop loin de l'analyser. Mais enfin, je vous conseille d'y réfléchir et de vous aider des manières spécialistes. Il y a des nations femelles et il y a des nations mâles. Le Portugal, la France. Bon, enfin bon, ça fait partie de tout un ensemble de problèmes qui nous mèneraient ailleurs. Bien. Enfin, il y a tout un secteur de la culture des sociétés qui est extrêmement important. Il y a une espèce de symbolisme qui a d'ailleurs toujours été étudié et qui est très intéressant d'ailleurs. Pas pourquoi telle nation choisit tel symbole, pourquoi elle choisit de se nommer au féminin ou au masculin, pourquoi elle choisit d'avoir tel drapeau, pourquoi elle choisit d'avoir bon des tas de détails de ce genre qui apparemment n'ont pas de sens, mais qui finalement sont étudiés dans des sciences très précises. Vous savez cela? Bon. Eh bien, enfin, ceci dit, reprenons notre problème. Ça veut dire, on apprend de ce premier verset, que la descendance de Caïn, vous voyez, Ha'adam, par rapport à la descendance de Cheth, va prendre une allure féminine. Ça y est? Vous comprenez cela? Je ne vais pas trop vite? Vous arrivez à suivre? Vaïr ou Benayoui, et donc les enfants de Cheth ont vu, et Benot Ha'adam, les filles de Adam, vous voyez comment tout se met en place de façon accélérée, pas dans le reste. Et ici, voir, d'ailleurs, comme en général dans le Mikra, voir, ça veut dire considérer, évaluer, juger. Kitovot Hena. Alors, les enfants de Cheth ont vu que les filles de Caïn, oui, étaient bonnes. Bonnes à quoi? Ben, à tout ce que vous voulez. Je veux dire, c'est pas le mot de belle, purement et simplement. Non, mais Tovot. Alors, ben, ils la Hena Shim et la Cher Bacharou, et ils ont pris pour eux des femmes de tout ce qu'ils ont préféré. Bah oui, ils ont élection de Miss Caïn. Bon. Alors, que se passe-t-il là? Pourquoi, lorsque, il me semble que je vous en ai déjà parlé, peut-être rapidement la dernière fois, lorsque, dans une société, c'est l'identité féminine qui apparaît, alors les femmes ont une apparence séduisante. C'est là qu'on était arrivé. Enfin, plus que séduisante. Les enfants de Cheth ont été fascinés par l'apparence de la beauté des filles de Caïn. Vous voyez que c'est ce que la Bible dit de ça. qui viennent. Alors à partir de ce moment-là, il y a croisement des lignées, mélange, et par conséquent, très rapidement, il arrive cette catastrophe de laquelle seul Noah arrive à se sauver, bien que lui aussi soit dans ce cas, parce que son père a aussi, les mères de la lignée de Seth, a épousé une femme de la lignée de Caïn, mais il arrive, si vous voulez, à faire ce surhaussement qui lui permet de rester fidèle à la tradition de Seth. Le résultat, c'est que la lignée de Seth se dénature. Il en résulte, si vous voulez, une lignée bâtarde qui est supérieure à la lignée de Caïn, oui, mais qui est, comment dire, dénaturée par rapport à la lignée de Seth. Le mélange se fait, et par conséquent, il n'y a plus ni Caïn ni Seth. Vous voyez ? Alors, ça, c'est le récit du dernier stade de l'échec. Nous avons vu que dans la lignée de Caïn, il y a une ligne de l'échec, dans la lignée de Seth, il y a des causes de l'échec, le sursis est donné chaque fois, et puis finalement arrive la catastrophe finale, le mélange. Alors vous rattacherez cela très très directement à la consigne des patriarches de ne pas prendre de femmes dans le pays de Canaan. Vous venez de le dire. Oui, c'est ce problème qui va être repris à charge, mais là, si vous voulez, on va avoir déjà une Torah, on sait comment il faut faire. Vous avez compris? Parce que si la lignée des patriarches se fabrique dans la matrice de Canaan, c'est fini. Voilà. Il n'y a plus ni Canaan ni Israël. Est-ce que c'est bien clair? Alors, c'est ce que je voulais surtout vous expliquer. Lorsque une quantité de vie qui est donnée à une certaine manière d'être homme, eh bien, cette lignée est en train d'échouer, alors, le champ du signe, si vous voulez. Elle se transfigure dans l'apparence féminine et elle a une fascination considérable. Oui. Alors, je vous disais, si je me souviens bien, c'est ici à vous, la dernière fois, que c'est exactement le problème de mariage mixte par rapport à Israël. Et dans cette espèce de chose, c'est un état de fait, n'est-ce pas ? De la séduction particulière que les filles goyes ont vis-à-vis des hommes juifs. Il y a une manière d'être, Tova Tmare, une manière d'être Tov, qui pose un problème. C'est-à-dire, très souvent, on se pose la question, c'est un problème de sociologie juive, mais finalement, ces juifs qui prennent les goyotes, qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce qu'il n'y a pas des filles en Israël? C'est ce phénomène qui joue. Vous comprenez? Bon, alors je pense que ce n'est pas la peine d'analyser plus, c'est finalement facile à comprendre. Hein? Et je vous ai dit d'ailleurs que nous avons malgré tout une aide dans ce problème, c'est le mariage mixte entre juifs. Et il n'y a pas doute qu'il y a quelque chose de cet ordre. Hein? C'est-à-dire la séduction réciproque entre Ashkenaz et Sfarad, c'est la soupape de... d'échappement à ce problème. C'est-à-dire que je ne veux pas aller jusqu'à dire que la motivation réelle est de quitter sa société pour aller prendre une fille dans la société étrangère, mais c'est le cas. Même si la motivation est inconsciente, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est un empêchement au mariage mixte. C'est un problème qui pourrait être analysé, vous ne pouvez pas prendre ça en thèse de sociologie, c'est un problème très, très intéressant. Mais, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'à faire. D'ailleurs, mon mariage est dans ce cas, puisque j'ai marié une colonelle. Enfin, oui, rassurez-vous. Mais il n'y a pas de doute que l'état de fait est actuellement, enfin, dans la découverte des Sfaradines par les Ashkenazines et des Ashkenazines par les Sfaradines, c'est une véritable découverte. Ça fait 2000 ans qu'on ne s'est jamais rencontrés, pas les uns et les autres. Eh bien, elle est un peu de cet ordre. Bon. Alors, ça, c'est une première chose. C'est bien clair? Est-ce que c'est compris? Moi, c'est pas difficile à comprendre. Et alors, d'autre part, il y a une autre motivation, c'est que, finalement, c'est à l'intérieur du problème du mariage mixte, cette fascination, vous voyez, est dans cette ligne de la chute de Seth. C'est que finalement, c'est la vocation. Des hommes de la lignée de Seth. Il faut sauver la lignée de Caïn. C'est-à-dire pourquoi les femmes de Caïn sont tellement fascinantes pour les hommes de chef? Parce que c'est ce qu'il y a à sauver. Vous voyez? Seulement le problème, c'est qu'il faut d'abord les éduquer, les rendre vives, et après seulement les marier. Or ce qui a été fait a été l'inverse. Vous avez compris? Ça donne l'autorisation à personne de faire un mariage mixte, bien entendu. Mais je vous explique le processus. Le problème est de savoir qui est cette femme qui vient d'égoïsme. Est-ce que c'est, comment elle s'appelle, Timna, ou est-ce que c'est Ruth? Vous avez entendu, vous avez déjà appris l'histoire de Timna. Oui, c'était une princesse des, on vous parlera de ça en détail, c'était une princesse des Horites, qui était un des peuples qui vivait en Canaan. Et puis, elle a découvert qu'Israël, c'était vraiment Israël. Et elle avait comme souci d'être la femme du patriarche. Elle a demandé à Dieu, elle a demandé à Abraham d'être sa femme. Abraham a refusé. Elle a demandé à Isaac d'être sa femme. Isaac a refusé. Elle a demandé à Jacob d'être sa femme. Jacob a refusé. Alors, on comprend bien que c'est un thème. Hein? Bon. S'il vous plaît, c'est dans la Gemara de Sanhedrin. Hein? Et alors elle a dit, dans tous les cas, puisqu'ils ne veulent pas de moi, je vais me marier avec quand même un homme de cette famille, parce que je ne peux pas prendre un mari, c'est des bêtes. Si déjà j'ai rencontré les hommes, je veux me marier avec un homme. Non, bon, les patriarches ne veulent pas, mais au moins je prendrai un homme. Et alors elle est allée dans la famille de Ésaü, et elle s'est mariée avec le fils d'Ésaü. Et elle s'appelle Timnar. Timnar, ça veut dire en hébreu celle qui a été repoussée. Timna. Comment? Comment privé? À priver de quelque chose. Oui, mais manoir, ça veut dire refuser. On peut le dire aussi comme ça, elle a été privée de ce qu'elle demandait. Mais enfin, ça veut dire qu'elle a été refusée. Qu'est-ce qu'elle a fait donc? Elle s'est mariée avec un des princes d'Ésaü, et qui elle a eu comme fils? Amalek. C'est-à-dire Amalek est sorti de ce mariage. Alors dans la Guémara, on discute ce problème. C'est un problème grave. Alors on dit, est-ce que les patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, avaient raison de la refuser? Et la Guémara dit, ils auraient dû l'accepter. La Guémara dit, mitor shelo lishma balifar. Quel est leur motif de la refuser? C'est qu'elle était intéressée. Elle voulait être la reine d'Israël. Elle voulait être, la reine. Bon, Abraham c'est le roi, elle voulait être la reine. Parce que si elle voulait uniquement entrer en Israël, il y a d'autres moyens que de se marier avec le roi. Bon, mais elle voulait être la reine. Donc c'était intéressé. Mais la Gemara dit, bon, c'était intéressé d'abord, mais après elle serait peut-être devenue vraiment en homme. Vous comprenez? Et alors, mais pourquoi quand même les patriarches ont refusé? Parce qu'il y a un rite énorme. Et si Amalek était né en Israël? Parce que voilà, elle est capable d'être la mère d'Amalek. Oui? Oui, mais quand même, le fils, c'est le fils de sa mère. Oui. C'est quand même Hamour, ça. Parce que on comprend le principal ennemi d'Israël, né de celle qui a été repoussée d'Israël, c'est grave comme problème. Hein, mais, tu ne veux pas que je sois juif, je serai un petit fils. Grosso modo, il y a tout ça. Mais on voit que les patriarches choisissent les mères de leurs enfants. Hein, ça veut dire, bon, un fils d'Abraham et de Timna, Abraham peut être sûr de lui, il ne peut pas être sûr du fils de Timna. Voilà qu'Abraham avait pris Agar, qu'est-ce qu'il est sorti Ishmaël, sauf. La peste et le choléra, c'est pas tellement ça. Oui. Vous voyez donc ce drame là. Alors, finalement, qui est cette femme qui peut venir en Israël? Si c'est Timna, il vaut mieux qu'elle reste où elle est, parce que son fils est Amalek. Si c'est Ruth, alors on la prend. Parce que son fils est David. Vous comprenez? Vous voyez donc le problème, l'échec de la lignée de Seth, hein, c'est qu'ils ont choisi, eux, Nicolas et Baharou, ils n'ont pas demandé au Bédine laquelle est cachère. Vous avez compris ce que je veux dire? Il y a des règles pour savoir est-ce qu'elle est cachère, elle n'est pas cachère. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Alors voilà donc comment l'échec se noue. Et nous allons voir comment la Torah raconte, quoi. Alors voilà, donc, à quel niveau nous sommes, les deux lignées se mélangent. Sans critères. Alors nous continuons, verset 3. Vayomer Hashem, lo yadon ruchi va'adam, le'olam. Alors à ce moment-là, on voit bien que c'est la fin de la catastrophe. Enfin, tout s'est noué là. Alors Dieu dit, lo yadon ruchi va'adam, mon esprit ne dominera plus sur l'homme, le'olam, pour tout le temps que doit durer ce monde, Beshagam Hubasa, bien qu'il soit fait de chair, et que par conséquent, il doit avoir l'aide de l'esprit que je devrais lui envoyer. C'est une des traductions possibles, la plus simple, c'est un verset divin. Enfin, entendez-le comme ça. Mon esprit ne dominera plus sur l'homme, Beshagam Hubasa, Baasergam, bien qu'il soit chair. Zahir Yamazna Veshrim Shana, et ses jours seront de 120 ans. Ça veut dire qu'on apprend par ce verset qu'un sursis supplémentaire de 120 ans a été donné à son corps.